Réplique, le royaume, avec Emmanuel Carrère. Depuis L'Adversaire, paru en l'an 2000, les livres d'Emmanuel Carrère sont très difficilement classables. Ce ne sont pas des romans. Toutefois, si l'on admet que l'imagination ne consiste pas seulement à former des images d'objets ou de personnages qu'on n'a pas perçus, mais qu'elle est aussi la faculté de se quitter et de se transporter dans d'autres vies que la sienne, les 5 derniers livres de Carrère sont pleinement des œuvres d'imagination. Avec Le Royaume, l'auteur se transporte et nous transporte avec lui très loin dans l'espace et dans le temps. Il tient ouvert devant lui non seulement les évangiles, mais un grand nombre d'ouvrages savants, dont l'irremplaçable « Histoire des origines du christianisme » d'Ernest Renan. Et il mène une enquête aussi érudite que vivante sur les vies de saint Paul et de saint Luc. Au cœur du livre, je lis ces phrases. « Toute la doctrine de Paul repose là-dessus. La résurrection est impossible, or un homme est ressuscité. En un point précis de l'espace et du temps, s'est produit cet événement impossible qui coupe l'histoire du monde en deux, avant-après, et qui coupe aussi en deux l'humanité, ceux qui ne le croient pas, ceux qui le croient, et pour ceux qui le croient, qui ont reçu la grâce incroyable de croire cette chose incroyable, rien de ce qu'ils croyaient auparavant n'a plus de sens. Il se trouve qu'une majorité de gens, dans la France des lecteurs, n'a pas reçu cette grâce. Ils ne croient ni à la résurrection, ni à la vie éternelle. Rien pour eux ne peut retirer le dard venimeux de la mort. Ce ne sont pas des athées triomphants. Ils disent, comme Gershom Scholem, « Là où il y avait Dieu, il y a maintenant la mélancolie. » À ces lecteurs, dont je suis, qu'est-ce que peuvent dire l'idée de royaume et le livre qui porte ce titre, Emmanuel Carrère ?
Ah, alors, on commence vraiment dans le vif du sujet.
Oui, on commence dans le vif du sujet, excusez-moi, mais vous-même, parce que je donne cette citation, mais au tout début du livre, vous parlez des revenants.
Oui, oui, hein, oui. Donc, non, la question,
on est au cœur de la résurrection est là tout le temps. Voilà,
Est-ce que le cœur du christianisme, c'est la résurrection ? Je me souviens que j'avais donné un état pas terminé de ce livre à un ami très cher, qui est d'ailleurs un personnage du livre, qui est mon ami Hervé Clair, qui est l'auteur d'un très beau livre sur le bouddhisme, qui s'appelle « Les choses comme elles sont ». Et mon ami Hervé avait tiqué sur une phrase très voisine de celle que vous citez, où je disais quelque chose comme voilà, être chrétien, c'est croire à la résurrection. Et si on n'y croit pas, on n'est pas chrétien. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul. Sur le c'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul, je suis d'accord. Mais là, mon ami Hervé disait, c'est peut-être pas si essentiel au christianisme, la résurrection. Et d'autre part, ajoutait-il, tu n'as aucune idée de ce que c'est que la résurrection. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est juste un truc, comme dans la série Les Revenants, un truc de science-fiction où les morts reviennent comme ça ? Ou est-ce que ça peut s'entendre d'une façon infiniment moins littérale ? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que dans le... Là, je parle pour moi, hein, mais peut-être aussi ça peut... parler à pas mal d'entre nous, c'est que dans le goût que j'ai pour le christianisme, qui n'est pas une foi, hein, qui n'est plus qu'il a été, mais qui n'est pas une foi, finalement, la résurrection ne tient pas une place importante. Non plus que la vie éternelle au sens de la vie future, au sens d'un au-delà. Quand je parle du royaume, reprenant cette expression qui était dans la bouche de Jésus, que les évangélistes mettent dans sa bouche, soit en disant le royaume des cieux, soit en disant le royaume de Dieu, soit en lui faisant dire le royaume tout court, et j'aime beaucoup le royaume tout court. Je dois dire que j'entends ce royaume, je n'y pense pas du tout comme à un au-delà, je n'y pense pas du tout comme à une vie après la mort, qui au fond n'est pas ne m'attire pas plus que ça. Enfin, c'est pas quelque chose que c'est pas un objet de désir pour moi. C'est une espèce de dimension sous-jacente de la réalité, quelque chose qui affleure par moment, quelque chose dans quoi se révèle, alors si on est croyant, le plan de Dieu. Si on n'est pas croyant, on peut l'entendre comme une espèce de... J'aime bien cette expression, vous savez, des gens dans un tout autre domaine, des psychologues de l'école de Palo Alto qui parlaient de la réalité de la réalité. Pour moi, c'est ça. Le royaume, c'est la réalité de la réalité. Et ça peut vraiment s'entendre sans croire ni à la vie future, ni même à la résurrection.
D'ailleurs, moi, j'ai du mal à comprendre ce qu'exactement les évangiles entendent elles-mêmes, si j'ose dire, par le royaume de Dieu. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, lit-on dans l'évangile selon saint Marc. Et que ton règne vienne, c'est fait partie du Notre Père, c'est le mot basiléa, ça je lis dans le catéchisme de l'Église catholique, qui peut se traduire aussi bien par royauté que par royaume, et on apprend que le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, mais on a le sentiment aussi que le règne de Dieu, c'est les fins dernières, c'est aussi quelque chose qui devrait pouvoir s'établir sur terre. Mais vous, en effet, vous semblez prendre vos distances et avec cette dimension d'avenir sur terre et avec l'idée du royaume des cieux pour dire c'est une réalité, une dimension du réel qui apparaît parfois, qui nous est donnée de manière sporadique, intermittente et quasi miraculeuse.
Alors... parlant avec vous tout de suite et à beaucoup de moments dans le livre, je parle aussi, je dirais, de l'usage personnel que je peux avoir de cette notion. Je veux dire, en quoi ça m'est, nourrissant, informant, irriguant dans la vie. Bien sûr, c'était aussi autre chose. Vous parlez de cette dimension, les fins dernières, cette dimension apocalyptique. Il est tout à fait vrai, et ça je le raconte dans toute la partie un peu historique du livre, que les premières communautés chrétiennes, on va commencer par les communautés de Paul, qui sont celles qu'on connaît le mieux, puisqu'on les connaît par les lettres de Paul, vivaient dans l'attente de la fin du monde et d'une fin du monde imminente, et donc du retour du Christ dans la gloire, dans les nuées, le jugement, la séparation des bons et des méchants. Ça oui, bien sûr, et ça tient aussi à ce que Paul disait, et les évangiles font dire en tout cas au Christ quelque chose d'extrêmement imprudent, c'est qu'il disait, ça va se produire de votre vivant, à vous qui m'écoutez, cette génération ne passera pas sans que ça soit produit. Et une des choses, un des gros problèmes qu'a rencontré l'apôtre Paul dans sa carrière, ça a été le moment où dans une de ses communautés, des gens ont commencé par mourir. Ont commencé à mourir. Et à ce moment-là, ses adeptes se sont retournés vers Paul en lui disant mais attendez, vous nous aviez dit qu'on verrait tous ça, qu'aucun d'entre nous ne mourrait sans l'avoir vu. Et ils se sont sentis floués à ce moment-là. Ils ont eu l'impression, vous savez, toujours exactement comme quand un chef de secte ou un prophète, comme il y en a régulièrement, nous dit attendez, la fin du monde, c'est pour telle date dans 6 mois. Et puis, les 6 mois passent. Pendant 6 mois, les adeptes vivent dans la fièvre et l'attente. Au bout de 6 mois, il ne s'est rien passé. Chose curieuse, normalement, ça devrait faire que tout le monde quitte la secte en disant « bon, on s'est fait avoir ». En fait, on observe, ça c'est une constante de sociologie religieuse, que généralement, ce genre de démenti du réel ne fait que souder davantage la secte. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Paul. Paul s'est mis en fait à expliquer, à la façon admirable qui pouvait être celle de Paul, il s'est mis à expliquer que en réalité, ça s'était passé, que ça se voyait pas et que ça ne s'en était que plus passé et que ceux qui le voyaient, c'était ceux qui croyaient vraiment et que ceux qui ne s'en rendaient pas compte, il valait mieux qu'ils s'en aillent, ils n'avaient pas la foi.
Et en même temps, au début du XXe siècle, je crois que c'est l'abbé Loisy qui a eu cette phrase terrible, on attendait le royaume et on a eu l'Église. Et d'autre part, c'est aussi l'un des griefs que le judaïsme, dont on oublie qu'il n'est pas antérieur au christianisme, puisqu'il s'est formé après la chute du temple avec le Talmud. Donc il serait presque postérieur au christianisme, mais le judaïsme dit, vous avez parlé des accomplissements, où sont-ils ? Il n'y a pas d'accomplissement, le mal règne sur la terre, ce n'est pas la paix, donc le Messie n'a pas pu arriver. Parce que Paul dit, folie, un Christ crucifié, un Messie crucifié, folie pour les païens, scandale pour les juifs. Évidemment, on attend un Messie de gloire, mais d'autre part, la prédication, la bonne nouvelle, c'est le retour en gloire du Christ, c'est effectivement la réalisation, l'accomplissement d'un monde messianique, ce qui peut être effectivement une des traductions du royaume. Or, ce n'est pas arrivé, donc le Christ ne peut pas, enfin Jésus ne peut pas se prévaloir de cette identité fils de Dieu, Messie. Voilà un peu quand même la surprise. Enfin, comment dire la réaction à cette bonne nouvelle qui ne s'est pas forcément traduite dans les faits. Mais pour vous, il me semble, à vous lire, que la bonne nouvelle, c'est malgré tout ce qu'on lit notamment dans l'Évangile selon saint Luc, c'est-à-dire le sermon sur la montagne. Des choses là sont dites. Aucun homme, écrivez-vous, n'a jamais parlé comme cela. Et il y a une coïncidence intéressante. La revue Commentaire, le dernier numéro, vient de paraître, donc en même temps que votre livre, avec un très bel ancien texte de l'échec Kolakowski. Et sur Jésus, et il dit ceci, « Fut-il Dieu ? Je n'en sais rien, mais si un homme divin a jamais vécu sur terre, c'est lui. » Et aux yeux de Kolakowski, comme au vôtre, le Christ n'est pas un homme divin parce que ça a été une sorte de guérisseur à temps plein. Moi, en lisant, grâce à vous, en relisant l'Évangile selon saint Luc, je suis frappé par ça. Il ne cesse de faire marcher des paralytiques, de ressusciter des morts, d'arrêter des hémorragies, de rendre la vue aux aveugles, de multiplier les pains, de réaliser des pêches miraculeuses. Là, on est dans le lumineux, mais le cœur du cœur de l'Évangile, ce n'est pas cela. C'est précisément ces paroles inouïes du sermon sur la montagne, voilà. Emmanuel Carrère.
Oui, là, il est vrai, voilà, on peut considérer, il y a deux entrées, si vous voulez, on peut, et j'essaye de le faire dans le livre, il y a tout ce côté historique, essayer de croire, de savoir ce que ces premières communautés ont cru, comment elles en sont venues à le croire. Toute cette histoire est incroyablement passionnante à raconter. Et vraiment, j'ai essayé de la raconter dans le détail. Et donc, elle croyait à la fin du monde imminente, à toutes sortes d'autres choses qui nous intéressent infiniment, mais qui en même temps sont lointaines. Et je dirais, dont nous n'avons guère d'usage, en dehors de l'usage de la curiosité historique et humaine. Il y a la question aussi de qu'est-ce que ça peut nous... Alors, tout simplement, de ce que peut nous dire aujourd'hui encore le christianisme. Et pour moi, et je pense que ce n'est pas très éloigné de ce que dit l'échec Kolakowski. Ça se résume en effet à une espèce de noyau dur de l'enseignement de Jésus, qui est cette espèce d'inversion totale et systématique de toutes les valeurs, enfin, qui va contre la pente humaine habituelle. Nous aspirons tous à être dominants plutôt que dominés, à être conquérants plutôt que conquis, à être grands plutôt que petits, à être riches plutôt que pauvres. Et le Christ est celui qui nous dit que ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le royaume, et en fait, le royaume, c'est aussi quelque chose dont les évangiles nous donnent les lois. Les lois qui sont d'ailleurs pas du tout des lois morales, qui sont, je dirais, ce que j'appelle dans le livre des lois karmiques, au sens des lois du karma, au sens indien, qui disent, voilà ce que sont les conséquences des actes. Ça dit, si tu fais ceci, il se produira cela. C'est pas ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il y a quelque chose, c'est comme si il était exprimé des lois selon laquelle dans une dimension de la réalité qui n'apparaît pas avec évidence à nos yeux la plupart du temps, tout se passe à l'inverse de ce qu'on croit. Alors je ne sais pas quelle est la teneur de vérité absolue, elle est totalement invérifiable d'une telle pensée. Elle est en même temps incroyablement stimulante. J'ai l'impression qu'un petit peu de ça, c'est comme le levain dans le pain, enfin dans les paraboles du Christ, avoir un petit peu présent à la conscience qu'il y a une vérité là-dedans, ça me paraît primordial. Alors, je ne me sens pas chrétien pour autant, mais sur ce plan, oui.
Sur ce plan, oui. Alors, je cite ce passage du livre où vous résumez ce qui vous apparaît comme l'essentiel du message. À quoi comparer ce royaume ? Un grain de moutarde, et la métaphore se trouve bien sûr dans les évangiles, un grain de moutarde minuscule qu'un homme a jeté dans son jardin. Il germe sans bruit, sans que personne le voie, et puis il pousse. Un jour, il devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Vous me demandez, mais ce royaume, il viendra quand ? On ne peut pas le saisir, on ne peut pas dire le voici, le voilà, il est parmi vous. Il est en vous. Pour y entrer, il faut passer par la porte étroite. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et vous dites, oui, c'est ça, c'est cette inversion des valeurs qui fait que, dans le royaume, eh bien, la première place n'est plus accordée aux riches et aux intelligents. Et vous les mettez dans le même sac, si j'ose dire.
C'est pas moi qui les mets dans le même sac. C'est le Christ, c'est le christianisme. Non, ça, ce que vous venez de lire, ça me paraît, en effet, si on veut vraiment le cœur du cœur de la doctrine chrétienne, de la doctrine est un mot très tellement froid et tellement ou tiède par rapport à quelque chose d'aussi intensément vécu. Mais pour moi, c'est le cœur du christianisme infiniment plus que la résurrection, pour ne rien dire de la divinité de Jésus, pour ne rien dire de la Trinité et de mille autres dogmes de l'Église catholique, dont il est éminemment intéressant de suivre la formation. Mais c'est pas ça, je dirais, qui m'est utile dans la conduite de la vie. Alors que ce que vous venez de lire, c'est inapplicable. Hein. C'est inapplicable. Mais en avoir un peu conscience, ça me paraît extrêmement précieux. Ça va totalement, totalement contre tout ce qu'on est enclin à croire, contre tout ce que le monde nous apprend à croire. C'est quand même, alors que vous citiez la phrase qui est dans les évangiles, la phrase des gardes venus arrêter par Jésus et qui disent « Aucun homme n'a parlé comme cet homme ». 2000 ans plus tard, c'est toujours vrai. Je pense qu'une parole aussi subversive n'a jamais été prononcée. Alors, il est tout à fait stupéfiant que sur cette parole se soit édifiée la chose qui lui est le plus contraire, c'est-à-dire une institution immense, durable, admirable à beaucoup d'égards, qui est l'Église. Admirable, détestable, tout ce qu'on veut, mais une immense institution. Bon, c'est le contraire de toute institution. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner comme institution.
Bien sûr. Mais alors d'abord, en vous lisant, j'ai pensé qu'il y a, au XXe siècle, un philosophe qui a voulu, si vous voulez, traduire dans sa langue le Sermon sur la montagne. Et il serait bien surpris, il est mort il y a quelques années maintenant, mais il serait bien surpris s'il m'entendait dire cela. Mais je crois que ce philosophe, c'est Jacques Derrida. Et parce que il a radicalisé les propos déjà hyperboliques de Lévinas pour dire le vrai don exclut la réciprocité. Et on l'a cela aussi dans antérieurement dans les évangiles. Il s'agit de faire l'aumône, mais enfin sans savoir ce qu'on fait.
Sans attendre, bien sûr.
Position, cette extravagance d'ailleurs a été très critiquée récemment par des penseurs qui s'inscrivent dans la lignée de Mauss, le don comme obligation de donner, recevoir et rendre, dont ils disent que ça fait partie de... C'est un invariant anthropologique, que même une société de... L'échange économique ne doit pas et peut-être ne peut pas y mettre fin. Je veux parler de Marcel Hénaff ou d'Alain Caillé, mais le pardon... Chez Derrida, c'est exactement la même chose. On ne doit pardonner que ce qui est impardonnable. Et d'autre part, il faut pratiquer l'hospitalité inconditionnelle. C'est-à-dire, dès qu'on met des conditions, dès qu'on commence à réfléchir, on trahit l'esprit véritable de l'hospitalité. Donc je vois un philosophe qui fait cela. Nous y reviendrons. Mais il me semble que, pour parler un instant de vous, et votre livre le réclame, puisqu'une sorte de va-et-vient constant, c'est un des charmes du royaume, entre votre vie et le récit que vous faites. C'est toujours le retentissement, la résonance en vous des évangiles. Et vous dites, j'écris pour ne pas abonder dans mon sens, je ne veux pas abonder dans mon sens. Il me semble que les privilèges qui sont les vôtres, voilà, d'une certaine manière, vous gênent, vous font honte. Et vous dites, oui, mais je ne vais pas me prendre pour un intelligent sous prétexte, en effet, j'arrive à écrire des livres. Je ne veux pas oublier cette dimension du réel parce que je vis dans une certaine aisance. Donc il y a quelque chose d'un peu, vous dites, cette dimension de la réalité m'aide en quelque sorte à échapper la tentation narcissique. Y a-t-il pas, est-ce que ce n'est pas un peu cela pour vous, le royaume ? Le rappel, justement, d'une autre hiérarchie que celle qui, aujourd'hui, vous favorise.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Alors là, vous touchez à un autre cœur du livre qui est un cœur intime, qui c'est sans doute moins intéressant pour la plupart des lecteurs, parce que là, vraiment, ça ne touche que moi. Mais oui, il y a une espèce de mauvais... Enfin, comment dire... ma vie me paraît tout à fait acceptable et même selon pas mal de critères, qui sont ceux du monde, selon les critères chrétiens qui sont d'une exigence absolument maximaliste, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voulez, la figure à laquelle je m'identifie beaucoup, c'est une figure qui apparaît dans l'évangile de Luc et aussi de Matthieu, qui est celle du jeune homme riche. Le jeune homme riche s'en vient voir Jésus et lui dit « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Jésus lui dit « Observe les commandements ». Le jeune homme riche répond « Oui, j'observe les commandements, ce que pour ma part, en gros, j'estime faire aussi. Enfin, je veux dire, je ne me conduis pas horriblement mal, je fais à peu près les bons. Observe les commandements. » Donc, il dit « Très bien, je le fais. » Et Jésus dit « Bon, alors, c'est déjà bien. Maintenant, si tu veux rentrer dans le royaume, fais tout autre chose. Vends tes biens, distribue tout aux pauvres. » Et, conclut la scène, le jeune homme riche s'éloigna, il était triste, car il avait de grands biens. Et je m'identifie terriblement à ce type qui, en gros, se comporte plutôt décemment, n'a pas vraiment de raison d'avoir honte de soi selon la sagesse du monde. Simplement, la demande supplémentaire du Christ, là, je ne suis pas vraiment prêt à y répondre. Celle de tout lâcher, au fond, de consentir à perdre. Il s'agit de perdre.
Et même Saint Martin ne donnait que la moitié de son manteau.
Oui, moi je suis très raisonnable.
En payant 55% d'impôts, nous le faisons.
Et comme je suis, c'est-à-dire que je suis à la fois jeune homme riche et intelligent, et j'ai plutôt envie de le rester. Enfin, jeune de moins en moins. Mais il y a quelque chose dans la demande du Christ qui me fait, dont je crois qu'elle est fondée, qui fait que je m'en vais plutôt triste parce que j'ai de grands biens et que c'est un handicap.
Alors,
dans le royaume,
c'est... là-dessus que va porter peut-être ma première objection, avant d'en revenir exactement à l'extrémisme moral du Christ. Alors je parlerai un instant mon nom propre.
Allez,
je ne me sens
ça.
Pas, parce que je me dis, et ce n'est pas une coquetterie, je ne me dis jamais que je suis intelligent. Je ne me le dis jamais parce que l'essentialisme, en cela, malgré moi, je suis sartrien, l'essentialisme m'est impossible. Si j'ai été intelligent en écrivant tel livre, tel texte, tel article, etc., c'était hier. Aujourd'hui, je ne sais rien. Tout ce que j'écris, même une lettre, c'est la première fois que je l'écris. Donc l'angoisse est là, l'angoisse de n'être rien, l'être est le néant, et elle est telle que je ne me sens jamais intelligent. Bon, ça c'est une première parenthèse, mais là je voudrais vous citer Pascal. Car Pascal fait une distinction absolument extraordinaire qui n'est pas dans les évangiles. Les évangiles, c'est l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit. Pascal dit, mais non, il y a l'ordre de la chair, les rois, les capitaines, les riches, la puissance sous toutes ses formes, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la charité. Et la distance des corps aux esprits est infinie, mais celle des esprits à la charité est infiniment plus infinie, car elle est surnaturelle. Et j'ai sous les yeux un texte que j'ai déjà cité, un article absolument magnifique du mathématicien Laurent Laforgue sur l'école, dans la revue Conférence, le numéro 22. Et il parle de la confusion des ordres. Il dit on confond maintenant les élites intellectuelles et les élites sociales. Il n'y a même plus de place pour les élites intellectuelles, pour l'ordre de l'esprit, dans ce qu'il a de singulier, d'indépendant. Mais il y a une autre confusion qui nous menace. C'est de voir l'ordre de la charité, si vous voulez, s'emparer de l'ordre spirituel. Il dit l'école appartient à l'ordre de l'esprit, bien sûr. On forme la pensée. Et l'école démocratique, on ouvre la possibilité de penser à tous, aux plus déshérités. Sauf que, avec le principe de la charité, on s'inscrit, dit-il, contre l'expérience du partage inégal de la pensée entre les hommes. Et la charité, ça donne le furieux égalitarisme scolaire dans lequel nous sommes placés. Plus de notes, plus de redoublements, suppression des bourses au mérite, suppression des bourses à l'intelligence. C'est la charité qui inspire ça. C'est parce qu'on veut être gentil. Donc, on donne des bourses sur des critères sociaux, on abolit le premier principe républicain au nom de la gentillesse, de la sollicitude, de l'ouverture, de l'humanité. Et le mérite, c'était une manière, justement, de combattre le piston, mais on vit le mérite comme un autopiston. Ah oui, puisque je me pistonne, je suis intelligent. Et alors, d'où ça vient? Au nom de quoi je devrais faire valoir ce privilège? Alors, si la gauche restait au pouvoir, elle supprimerait les classes préparatoires pour exactement les mêmes raisons. Donc, on est en train de détruire l'école. Moi, je vois, si vous voulez, ce problème. Et ce problème, si bien résumé par Chesterton, le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Et la charité hors de son ordre, eh bien, elle est folle et peut-être est-elle en train de démolir les institutions qui nous sont les plus chères. Donc, devant cette fragilité de l'ordre spirituel, je ne me reconnais pas dans une formulation aussi, si vous voulez, radicale. Les derniers seront les premiers. Parce que j'en vois un commencement d'application et ça me terrifie. Et bien, Carrère, si vous n'êtes pas d'accord...
C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que je ne sais pas par quel bout... par quel bout prendre tout ce que vous venez de dire, que je trouve passionnant dans l'ensemble, que je trouve juste, avec quoi je suis d'accord.
Mais il y a un petit quelque chose.
Non, c'est-à-dire, je ne sais pas si mon rôle là est d'être, comment dire, le défenseur du christianisme. Parce que sur le fait que...
Mais vous êtes fasciné par cette formulation, c'est ça?
Oui,
les premiers,
oui, oui.
Les derniers seront les premiers.
L'idée des... vous savez, Dans le livre précédent que j'avais écrit, où vous aviez eu la gentillesse de m'inviter, qui s'appelait Limonov et qui était le portrait d'une espèce d'aventurier fasciste russe, je citais à un moment, toujours cité par mon ami Hervé Clair, un sutra bouddhiste qui disait, ça s'appliquait, c'était à propos de Limonov, qui est un personnage extraordinairement, qui passe son temps à se demander face à quelqu'un s'il est en dessus ou en dessous de lui, enfin pour qui cette question de hiérarchique est absolument centrale. Et ce sutra bouddhiste disait, l'homme qui se croit supérieur, inférieur, ou même égal à un autre homme, ne comprend pas la réalité. Et j'avais l'impression qu'au fond, c'était de ça que j'étais... qui était un peu le cœur du livre sur Limonov, et dont j'étais presque parti... Enfin, une des choses dont j'étais parti en écrivant ce livre, parce que ça rejoint beaucoup cette intuition chrétienne, qui est... quand vous citez Chesterton en disant notre problème, c'est d'être, livré en pâture à des valeurs chrétiennes devenues folles. Les valeurs chrétiennes sont déjà folles en soi. Oui. C'est la folie qui les caractérise. Je pense que quelque chose de cette folie est précieux et doit informer ou irriguer nos conduites, notre intelligence. Par ailleurs, que le christianisme, dans ce que je pense, et on est d'accord là-dessus, être son noyau dur, le sermon sur la montagne, les béatitudes, que ce soit quelque chose d'inapplicable, que ce soit quelque chose sur quoi on ne puisse pas bâtir une politique, une société, tout ça, ça me paraît l'évidence. Une société qui serait chrétienne serait une société qui ne marche pas du tout, qui ne peut pas marcher. En revanche, une société dans laquelle infuse un petit peu de valeurs chrétiennes qui font que ça devient un tout petit peu autre chose que simplement la loi des choses comme elles sont, je suis plutôt pour, quoi. Je ne sais pas, si vous voulez, quel est le...
Oui, il faut qu'elles soient là, ces valeurs.
Non, mais quelle est la part aussi, d'usage purement privé dans une espèce de rapport de soi à soi ou à ses proches, et d'usage social dans un sens plus large.
Une société chrétienne, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. Et ça n'est pas l'Église, dans les temps où elle a exercé un pouvoir temporel, qui peut, si peu que ce soit, nous en donner l'idée.
Non, mais alors justement, qu'est-ce qui nous en donne l'idée? Vous racontez très courageusement, je trouve, à la fin de votre livre, une expérience. Vous êtes allé avec des chrétiens.
Des bons cathos, avec ce que ça implique d'un peu caricatural, mais qui me touche.
Laver les pieds, c'est ça de...
Je suis allé, expliquer. Si vous voulez, il y a un certain nombre de communautés chrétiennes dans lesquelles est pratiqué le jeudi saint, mais aussi dans d'autres circonstances, une espèce de rituel du lavement de pieds, réciproque, qui se réfère au fait que, selon saint Jean, et lui seul d'ailleurs, le soir de son dernier repas avec ses disciples, Jésus a non seulement, comme le racontent les autres, institué l'Eucharistie en leur disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang », tout ça, mais leur a aussi, c'est aussi levé pour à un moment leur laver les pieds, les uns après les autres. Les disciples étaient absolument épouvantés en disant « mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne se fait pas, ça n'a aucun sens. Se laver les pieds, c'est se mettre en posture d'esclave et tout. C'est nous qui sommes tes disciples. Bon. » Et Jésus a dit, répond, si tu ne consens pas à ce que je te lave les pieds, tu ne peux pas avoir part avec moi. Ce qui est, et au fond... On se dit que l'histoire aurait pu faire que ce rituel-là tienne la place que tient l'Eucharistie, tout aussi plausiblement et pas de façon spécialement plus absurde. Il se trouve que certaines communautés en gardent davantage
le souvenir que d'autres.
On le fait, il est de tradition de le faire le jeudi saint, qui est le moment où le Christ l'aurait fait. Effectivement, j'étais allé dans une communauté comme ça qui se consacre, ce sont des communautés autour de handicapés mentaux, qui sont d'ailleurs des trucs, alors là, à tous égards, formidables, c'est des trucs vraiment très 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 bien faits par des gens de très grande qualité, et je me suis retrouvé comme ça à participer à ce rituel, disons. J'étais là à me dire, bon, j'arrivais à la fin de mon livre, je me disais, ce serait bien que je fasse un truc comme ça avec des catholiques d'aujourd'hui, tout ça. Je me disais, j'ai quand même pas envie non plus que d'être touché par la grâce et de revenir chez moi croyant parce que j'ai lavé les pieds d'inconnus. Il n'empêche que j'étais assez troublé et ému par ce désir, et ce que symbolise ce désir aussi, encore une fois, dans une communauté faite autour de handicapés. Je sais bien que tout ça a l'air caricaturalement catho. Il n'empêche que ce désir sincère chez des gens de se mettre entièrement du côté de la faiblesse, on peut en donner plein de définitions du christianisme, mais être du côté de la faiblesse, c'est quand même aussi le cœur de ça. C'est quelque chose qui me touche, qui m'émeut, me paraît précieux.
Vous dites à un moment donné que ces catholiques-là ne sont pas le genre de catholiques qui défilent contre le mariage des homosexuels et le trop grand nombre d'immigrés. Je les vois mieux secourant les clandestins illettrés, remplissant pour eux des papiers administratifs. Catho de gauche, défenseur des faibles, gens de bonne volonté. Alors, est-ce que vous pensez que dans cette défense des faibles, il y aurait, selon vous, une continuité entre cette cérémonie, ce rite auquel ils se livrent, et leur action politique, humanitaire? Et est-ce que s'il y aurait là, selon vous, cette dimension du royaume, cette manière d'écouter le sermon sur la montagne et de répondre à l'injonction christique d'une inversion des valeurs?
Écoutez, malgré tout, je veux dire, on peut toujours caricaturer et se moquer, mais il me semble que des figures comme autrefois l'abbé Pierre ou ce prêtre dont il était question il y a quelques jours, qui a failli être jugé pour avoir hébergé des Congolais sans papier, sont malgré tout plus proches de l'Évangile que des figures de prélats institutionnels. C'est une grande banalité de dire ça.
Mais alors justement, arrêtons-nous à cette banalité. Et parce que je voudrais revenir justement sur la question de l'extrémisme moral.
C'est un extrémisme moral,
alors,
absolument.
Là,
pas seulement moral, mais c'est un extrémisme.
Je pense d'abord à Max Weber, la morale de conviction et la morale de la responsabilité. Il dit d'ailleurs que la morale de conviction, c'est celle du sermon sur la montagne, c'est celle du chrétien. J'entretiens la flamme de la pure doctrine et je ne me soucie pas des conséquences. La morale de responsabilité, c'est je me pose la question des conséquences. Si les conséquences d'une attitude aussi ouverte, humanitaire, hospitalité inconditionnelle, disait Derrida. Mmh. C'est l'établissement d'une société beaucoup plus dure, beaucoup plus conflictuelle, beaucoup plus violente, beaucoup plus séparée, parce que voilà, on supprime les frontières et des murs se hérissent partout. Est-ce que c'est encore moral? Et là, évidemment, je pense aussi à la critique du pharisien dans les évangiles, une critique qui est passé dans la langue. Aujourd'hui, le pharisaïsme, c'est le contentement de soi, l'hypocrisie, etc. C'est terrible. Il y a une très belle défense du pharisien dans Difficile liberté de Lévinas, et il dit du judaïsme, on ne peut pas être juif instinctivement, on ne peut pas être juif sans le savoir, il faut désirer le bien de tout son cœur, et à la fois ne pas le désirer simplement dans l'élan naïf du cœur. La justice est impossible à l'ignorant. Je pense à la prière de Salomon pour avoir un cœur intelligent. Et pourquoi a-t-on besoin d'un cœur intelligent? Précisément parce qu'il y a toutes sortes de cas d'espèce, parce qu'il faut juger en situation ce que les Grecs appelaient la phronesis. Et là encore, je vois cette idée, ben non, l'amour tiendra lieu de valeur ultime, je vais vers l'autre et peu m'importe les conséquences de mon acte. Et là, je retrouve une forme de narcissisme. Parce que vous dites, oui, il faut rompre avec espèce de vanité, d'autosatisfaction du riche et de l'intelligent. Mais celui qui agit comme ce prêtre, il est quand même très content d'agir ainsi. Et que la société se débrouille, ce n'est pas son problème. Et personnellement, je ne me reconnais pas dans ce genre d'attitude. Je me dis, mais je crois qu'il faut se demander dans quelle société nous voulons vivre et qui paiera, ce ne sera pas ce prêtre, qui paiera les conséquences de l'hospitalité inconditionnelle. Ce ne sera pas ce prêtre, ce n'est pas vrai. Donc voilà, je suis sur ma faim.
Attendez, c'est très convaincant ce que vous dites. C'est très convaincant, ça m'embêterait si je me considérais que je suis purement comme un avocat du christianisme, ce que je ne suis pas, que j'essaye de déployer quelque chose de l'histoire de ses débuts et de ce que j'en ai compris, de ce que je crois en comprendre, et aussi, je ne vais pas me dérober, aussi de ce qui retentit en moi, de ce qui résonne en moi du message chrétien malgré tout. C'est très très convaincant ce que vous dites, et ça a été beaucoup souligné. Il y a une pièce très très drôle de Marcel Aimé comme ça qui raconte l'histoire d'un bourgeois parisien qui a vécu une vie paisiblement nantie et somme toute assez inoffensive, et qui a un moment est touché par la grâce, se met à agir absolument selon l'évangile et multiplie les catastrophes autour de lui, dans sa famille, dans son quartier, et dans sa société. Si Marcel Aimé allait jusque-là, les effets pervers, les effets catastrophiques de cette exigence totalement maximaliste qu'est l'évangile. Je suis d'accord là-dessus, ils ne sont pas à démontrer. Maintenant, devrait suivre un argument vigoureux dans ma démonstration, mais ce n'est pas une démonstration, j'arrive pas à faire une démonstration. Non, j'écoute ce que vous dites, et notamment ce que vous dites, enfin, en reprenant la démonstration de la classique distinction de Max Weber entre l'éthique de conviction et celle de responsabilité, me paraît très très convaincant. Mais voilà.
Mais justement, moi, en vous lisant encore, parce que vraiment, votre livre donne à penser tout le temps, vous m'en aviez parlé au moment où vous le terminiez, vous m'avez dit, j'écris un livre sur Saint-Luc, et je me suis dit, comment il va faire? Comment il va écrire sa vie? Est-ce qu'il va décrire ses sandales, etc.? Et là-dessus, d'ailleurs, vous avez une expression extrêmement drôle. Vous dites que les romans historiques, ça ne vous inspire pas du tout. Faire dire à des personnages de l'Antiquité, en toge ou jupette, des choses comme « Salut à toi, Paulus, viens donc dans l'atrium », il y a des gens capables de faire ça sans sourciller, moi pas. Donc, ce n'est pas du tout ce que vous faites. Votre roman donne à penser constamment, dans cet accompagnement de Saint-Luc et de Saint-Paul, non seulement par la réverbération sur vous-même, mais même parce qu'on y apprend sans cesse.
Je peux ajouter quelque chose juste sur ce qu'on disait avant, sur justement les accommodements avec le maximalisme chrétien. Une des choses que j'aime bien avec Luc, c'est que ça l'embêtait. C'est-à-dire que, et régulièrement, dans son évangile, on sent que par rapport à des choses qui lui ont été transmises, dont on ne sait pas jusqu'à quel point il est fidèle, mais des paroles du Christ, il essaye un petit peu de les raboter, de les lisser, de les rendre plus accessibles et plus compatibles avec la sagesse sociale, les choses comme ça. Un très bon exemple est l'histoire du bon samaritain, qui est une invention de Luc, qui n'existe que chez Luc. Le bon samaritain, dont vous connaissez l'histoire, il y a un type qui est en train d'agoniser sur une route, passe trois prêtres ou lévites, enfin des saints hommes, etc., qui passent sans s'arrêter, après un samaritain qui est donc une espèce de juif pas très de mauvaise obédience, très méprisé par les juifs, et donc voilà, l'ali de la terre, et le samaritain, lui, se montre secourable, amène le type à l'auberge, tout ça. Et donc, on comprend bien la morale, c'est-à-dire que le réprouvé se comporte souvent mieux que les gens qui sont, qui ont pignon sur rue et qui sont officiellement bons et vertueux. Mais Luc ajoute un truc ensuite, c'est que le bon samaritain, il amène le type à l'auberge, il donne de l'argent à l'aubergiste, mais il ne fait pas, et Françoise Dolto, qui avait fait un commentaire de ce l'en louait beaucoup, disait, il ne fait pas de maximalisme chrétien. Il ne lui donne pas tous ses biens, il ne l'invite pas à habiter chez lui, il fait ce que on fait pas nécessairement, mais qu'on devrait faire, de l'assistance à personne en danger. Donc, il fait... ce qui est drôle, c'est que au fond, cette espèce de minimisation du maximalisme du Christ, c'est une spécialité de Luc, qui essaye de rendre ça un peu plus comestible il s'adresse à des païens, Luc, à la différence des autres, qui s'adresse à des membres de la secte. Lui s'adresse à des païens cultivés, curieux, et à qui il ne faut pas non plus raconter des trucs trop inadmissibles, qui réagiraient un peu comme vous, en termes aussi de morale, de responsabilité, en disant, mais si on fait comme ça, ça va tourner comment, le monde ? Tout
c'est va
pas
partir
seulement
en couille.
Morale de responsabilité, c'est aussi, effectivement, s'intéresser à la singularité des cas. Alors, les Grecs, c'est la phronésis, mais on pourrait dire le judaïsme, c'est le Talmud, dont Lévinas dit, le Talmud est la lutte avec l'ange. Moi, je ne suis pas un talmudiste, je suis plutôt... J'ai plus lu les Grecs que le Talmud. Mais ce souci est un souci moral, bien entendu. La vraie morale, on peut considérer que c'est celle-là. On peut dire l'humanitarisme ne suffit pas à la morale. Elle a d'autres exigences, mais des exigences dans lesquelles entrent précisément l'intelligence et le discernement. Et je pense, en lisant votre livre, à l'opposition des deux derniers papes. Ratzinger, que personne n'aimait, qui était un théologien, etc., qui faisait des gaffes, et un pape que tout le monde aime parce qu'il a l'air humanitaire. Il fait des gestes qu'on aime, etc., on l'adore. Mais moi, j'ai lu les deux conférences les plus célèbres de Ratzinger, celle de Ratisbonne et celle des Bernardins. Je vais parler de la conférence de Ratisbonne. On lui en a voulu, parce qu'il commence par un échange sur l'islam. Et certains islamistes, pour prouver que l'islam n'était pas violent, ont mitraillé des églises. C'est vrai que la preuve était faite. Mais le cœur du texte ne porte absolument pas sur l'islam. C'est une critique de la modernité et du christianisme. Il dit voilà, la raison est devenue raison scientifique, technique, instrumentale. Et le christianisme s'est déshellénisé. Et au bout de ces déshellénisations, il y a un message humanitaire, sentimental et vague. Et il plaide pour... un logos qui se pose à nouveau les questions essentielles. Il cite Platon, on comprendrait Socrate, un dialogue de Platon, on comprendrait aisément que par dépit devant tant de choses fausses, quelqu'un en vienne à haïr et à mépriser tous les discours sur l'être pour le reste de sa vie. Mais de cette façon, il se priverait de la vérité de l'être et pâtirait d'un grand dommage. C'est un texte magnifique. Il dit on ne doit pas se priver de cela et peut-être la théologie peut nous aider. Donc il faut questionner et se poser des questions essentielles. Et cette idée, je la trouve très belle, si vous voulez. L'idée d'un grand logos et pas seulement
du sermon sur la montagne. Voilà, il peut y avoir aussi autre chose dans la grande tradition chrétienne. Et peut-être notre société veut-elle, par paresse intellectuelle, et là on retrouve l'intelligence, plutôt de l'humanitaire que du grand logos. Et ce serait peut-être dommage.
Rendez-moi cette justice, j'essaye de...
Ah oui.
Malgré tout, je n'ai pas, j'espère en tout cas, n'avoir pas résumé le christianisme en dernière analyse à une espèce d'humanitarisme vague et de moralisme bénin, à la fois maximaliste et bénin.
Ouais,
je sais que ça peut devenir ça, ça peut devenir ça, il y a une espèce de pente naturelle d'affadissement. Qui tend à ce que ça devienne ça. Ça n'est pas uniquement ça. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Vous avez une expression magnifique.
À chaque fois, avoir des définitions différentes selon de ce qui est le cœur du christianisme.
Je l'avais noté sur mon cahier de citation que j'ai oublié. Vous avez une expression magnifique. Vous dites que le christianisme, c'est un bébé... difforme et trisomique.
Parle à un moment du christianisme.
C'est absolument magnifique.
Effectivement,
c'est-à-dire comme...
Alors je me rappelle le contexte, mais j'en peux pas le retrouver là tout de suite parce que sinon c'est dit comme ça, je compare le christianisme à un enfant trisomique, ça va pas.
Mais enfin si, cette idée même, si on n'en trouve pas l'expression tout entière avec cette idée, cet enfant trisomique et difforme qu'est le christianisme, c'est une idée absolument magnifique. Je trouve, au contraire, je trouve que là, évidemment, on est renvoyé à ce maximalisme, à cette folie, mais dans ce cas-là, de plus beau. Et ce n'est pas le bêtement humanitaire. C'est justement, moi, je trouve, même un peu simplifié par une mémoire défaillante, je trouve que cette expression reste très forte. Mais je voudrais aussi vous citer un autre passage de Kolaskowski pour vous demander si vous êtes d'accord. Parce qu'il parle un peu au nom de la dissidence.
Oui.
Ce que j'ai remarqué, c'est que les dissidents russes, comme polonais, ont, du fait de leur expérience du totalitarisme, été amenés à réhabiliter une notion dont personne ne veut plus entendre parler, qui est le péché originel. Ils sont devenus férocement anti-rousseauistes. Rousseau, Cassirer le dit, se pose la question du mal, et l'auteur du mal, ce n'est ni la nature humaine, ni Dieu. C'est un nouveau sujet qu'il invente, la société. Une meilleure société fera disparaître le mal. Et eux disent, non, c'est avec un discours comme ça qu'on construit des régimes féroces. Et d'où cette phrase de Kolakowski, l'aptitude à se sentir coupable est la condition d'être homme. Cette aptitude fait de nous des humains, dit le livre de la Genèse, et il n'a pas tort. Et il est vrai que dans notre Père, c'est délivre-nous du mal. Nous n'en avons pas la possibilité. Par nous-mêmes. Et il me semble que, ça c'est une dimension inattendue, si vous voulez, du message évangélique, mais dont les dissidents ont retrouvé le sens.
Quand vous avez commencé à parler, j'avais un petit peu peur de devoir plancher sur le péché originel, notion qui m'est au fond pas extraordinairement familière théologiquement et sur laquelle je serais bien en peine de dire quelque chose d'intelligent, Mais quand vous lisez cette phrase que la capacité à se sentir coupable est ce qui nous fait homme, alors là, je suis mille fois d'accord. Et une des choses qui m'agace, c'est cette espèce de vulgate psychologique qui, à certains égards, est efficace et pas fausse, qui dit qu'il faut toujours évacuer la culpabilité parce que ça ne sert à rien, que la culpabilité, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, c'est mauvais, tout ça. Mais... la culpabilité, c'est peut-être pas bien, mais enfin, il y a des fois où on est coupable.
Oui.
Et ça serait un peu dommage de l'ignorer.
Et en plus, le problème, c'est qu'on ne se débarrasse jamais de la culpabilité. C'est-à-dire, quand on l'évacue, on a vraiment tendance à l'évacuer sur les autres.
Oui.
On l'externalise.
Entièrement d'accord.
On l'externalise. En l'externalisant, que ce soit un sujet abstrait comme la société, ou que ce soit telle ou telle personne, ou tel groupe de personnes... je pense qu'on ne s'oriente pas vers une position vraiment morale. Et en effet, on peut dire que là, Kolakowski rejoint vos propres préoccupations. Quand vous dites « je ne veux pas abonder dans mon sens », il y a ça, il y a cette culpabilité-là quand même qui
travaille. C'est pas vraiment quand je dis « je ne veux pas abonder dans mon sens », c'est pas tellement une question de culpabilité. Ça tourne autour du fait, si vous voulez, j'essaye d'approcher le christianisme du point de vue un peu particulier de quelqu'un qui, à un moment de sa vie, a été chrétien,
chrétien voilà, d'une qualité qui se discute, peut-être un chrétien très caricatural, crispé, dogmatique, raide, mais enfin bon, on est chrétien avec ce qu'on peut, comme on est tout ce qu'on peut, mais, et qui ensuite écrit dans la position de quelqu'un qui n'est plus du tout dans la foi, qui n'est plus du tout, un croyant, mais je ne voudrais pas... sans pour autant, vous voyez, je ne voudrais pas me dire que j'ai nécessairement beaucoup plus raison aujourd'hui. Je me méfie comme quiconque aime l'histoire. Vous voyez, cette espèce d'illusion qu'on a que c'est dans le présent qu'on a raison, que le présent a toujours raison contre le passé, que ce soit en ce qui concerne les sociétés ou les civilisations ou en ce qui concerne les individus. On est tous enclins à penser qu'avant, on était plein d'illusions, de superstitions, de bêtises, et que maintenant, on est infiniment raisonnable et plein de maturité.
Ah, d'accord.
Ce qu'on est maintenant va être aussi balayé à un moment ou à un autre. Et donc, quand je dis que je ne veux pas abonder dans mon sens, c'est que je ne voudrais pas que l'agnostique, somme toute assez paisible que je suis là-dessus, parce que Dieu sait qu'il y a un tas de choses sur lesquelles je ne suis pas paisible, mais cette espèce de scepticisme est quelque chose qui ne me pose pas de problème, alors que c'était, voilà, ma foi était le cœur de ma vie il y a 20 ans, tout ça. Je ne voudrais pas totalement traiter par-dessus la jambe et par le mépris celui que j'étais auparavant. J'essayais d'introduire un dialogue avec lui et éventuellement même avec... un mois possible dans 20 ans, dont je n'imagine pas du tout qu'il reviendrait à cette foi dogmatique qui était la mienne, mais dont le rapport avec toute cette histoire pourrait être encore différent.
Voilà, que ce scepticisme qui est le vôtre vous inspire une très belle phrase. Vous dites, je crois, pour moi, le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est la certitude.
Et je dis aussi que je suis, au fond, même pas assez croyant pour être athée.
Bon, bah écoutez... Et pas plus belle conclusion. Elle me laisse bouche bée. Merci beaucoup, Emmanuel
Carrère.
Merci
beaucoup. Merci de votre invitation. C'était vraiment un plaisir de parler de tout ça avec vous.
Le titre de votre livre, Le Royaume, il est édité aux éditions POL. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La France face au génocide des Tutsis ». Et mes invités seront Raphaël Maison et Ronnie Bormann. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Véronique Villa. À la technique aujourd'hui, Romain Lenoir. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannelet.